France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Vous qui achetez des packs d'eau pour être certain que l'eau que vous buvez, peut-être même que vous montez péniblement les escaliers avec un pack dans chaque main, vous qui buvez une partie des 8 milliards de bouteilles qu'on consomme en France parce que le label eau minérale naturelle vous rassure, vous avez donc été trompé. Pas de surprise, mais une confirmation sans appel de la commission d'enquête sénatoriale sur les pratiques des industriels de l'eau en bouteille. Votre eau minérale naturelle était très loin d'être aussi pure qu'on vous le vendait. L'eau a été traitée parce qu'elle n'était pas saine et c'est interdit. Puis microfiltrée sans vous prévenir, vous, les consommateurs, tout ça sous le regard des pouvoirs publics qui savaient mais n'ont rien dit. Perrier, Épar, Contrex, Vittel, on parle d'une omerta entretenue au plus haut niveau de l'État avec Nestlé Waters. Je parle sous le contrôle de nos invités. Il n'y a pas eu de danger pour la santé publique, on en parlera d'ailleurs, vous nous confirmerez ou pas. En tout cas, 30% de l'eau en bouteille subit des traitements non conformes. Est-ce que ce scandale Nestlé Waters emporte le bébé avec le minéral? C'est ce qu'on verra. Est-ce qu'on a encore une eau minérale naturelle fiable en France? Et surtout, qu'est-ce qu'on dit du coup de l'eau de notre robinet vers laquelle on est tenté de se tourner? C'est l'aliment théoriquement le mieux contrôlé, le plus contrôlé. Est-ce qu'on en est absolument sûr? Qu'est-ce que ça veut dire tout simplement? Qu'est-ce qu'on fait des PFAS? Qu'est-ce qu'on teste avant de considérer une eau comme intégralement propre à la consommation? Y a-t-il des substances dangereuses qui ne sont pas contrôlées? Faudrait-il revoir nos critères de contrôle? Que dit-on des seuils surtout? L'idée n'est certainement pas de nous faire peur, mais de savoir ce qui est contrôlé, ce qui l'est moins, ce que dit l'avenir. Vouloir comprendre, ça coule de source. Allez, c'est le téléphone sonne, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Johan, vous êtes le premier et vous êtes le bienvenu. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Johan.
Alors, moi, par rapport à ce scandale sur l'eau, c'est principalement le rôle de l'État et les responsabilités qui lui incombent qui m'inquiètent, savoir que l'État a couvert ce scandale et est-ce qu'on va pouvoir se retourner contre l'État pour avoir identique qu'à l'avenir ça se reproduise pas, parce que là c'est plutôt inquiétant.
Et merci pour votre question, Johan, pour aller ensemble jusqu'à 20h et en parler autour de la table. Il y a Marie Dupin, bonsoir.
Bonsoir.
Elle est pour vous, cette première question. Vous êtes journaliste à France Info. Vous êtes aussi celle qui a fait une enquête très approfondie pour la cellule d'investigation de Radio France. C'était il y a un an et l'enquête sénatoriale, au fond, est l'aboutissement de ce que vous nous révéliez déjà il y a un an. Je vous vois faire... vous nous donnerez le détail tout à l'heure. Alexis Guilpar est là, bonsoir.
Bonsoir.
En charge des questions de l'eau à France Nature Environnement. Il y a aussi Nicolas Garnier qui est là. Bonsoir, monsieur Garnier.
Bonsoir.
Directeur général de l'association Amorce, vous êtes au bureau de Radio France à Lyon. On remercie nos amis à Lyon de vous accueillir. Marie Dupin, pour aller directement vers la question de Johan, le rôle de l'État, pour le coup, il est clair et net. Qu'est-ce qui se passe après, en fait? Qu'est-ce qui a été lancé après? Qu'est-ce qui se passe après?
Après, c'est-à-dire...
après maintenant, une
après
fois qu'il,
maintenant,
est, une fois qu'il est clair...
Une fois qu'il est établi et confirmé
exactement.
Par le rapport sénatorial.
C'est en ça que je disais que votre enquête a été confirmée par les sénateurs.
Exactement. Bah, qu'est-ce qui se passe après? En tout cas, dans le rapport sénatorial, il n'y a pas de préconisation vis-à-vis des
dirigeants
d'État.
C'est toujours le cas d'une enquête sénatoriale. Ouais.
Oui, voilà. C'est-à-dire qu'il faut, il faut un consensus hein, pour qu'une enquête... elle a été adoptée, ce rapport sénatorial, il a été adopté à l'unanimité, moins une abstention. Donc, pour obtenir cette unanimité politique, effectivement, il n'y a pas de préconisation très, très ambitieuse sur la matière. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, il y a une enquête pénale qui est en cours. Il y a une information judiciaire qui est ouverte. La répression des fraudes a déposé récemment un article 40, c'est-à-dire a saisi la justice. Donc la justice est saisie. La justice est saisie sur les pratiques de Nestlé, mais peut-être, pourquoi pas, un jour sur la responsabilité des responsables politiques dans cette affaire.
Ça pourrait arriver. Ramenez-nous, Marie, un tout petit peu en arrière sur ce qu'on a découvert et donc sur ce qui a été couvert, en fait. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette eau qu'on n'aurait jamais dû trouver dans cette eau?
En fait, ce sont donc les puits qui sont exploités par le groupe Nestlé. Donc Nestlé a deux usines en France, une usine dans les Vosges où sont produites les marques Vittel, Épar et Contrex, et une usine dans le Gard où est produite la marque Perrier. Ces puits, ces forages où on va puiser l'eau qui ensuite se retrouve dans les bouteilles, eh bien ces puits sont contaminés par des pesticides, mais aussi par des bactéries.
Fameuses E. coli.
Voilà, des bactéries potentiellement pathogènes qui peuvent provoquer des gastro-entérites qui peuvent être assez graves. Et donc, c'est ce type de bactéries qu'on a retrouvées dans l'eau.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que la microfiltration qui avait finalement été mise en place? On a traité d'abord et puis on a fait ce qu'on appelle de la microfiltration. Qu'est-ce que ça veut dire en fait?
Non, mais en fait, par exemple, quand vous buvez de l'eau du robinet, votre eau, elle est très traitée avec tout un tas de filtres. Il y a des filtres UV qui éliminent justement toutes les bactéries. Il y a des filtres à charbon qui éliminent les pesticides. Et il y a aussi des procédés de microfiltration qui éliminent une partie des bactéries, mais pas toutes les bactéries. Et donc, il y a tous ces filtres-là qui sont mis pour l'eau du robinet. Nestlé avait installé, en toute illégalité, dans le plus grand secret, toute cette batterie de filtres qu'il y a sur l'eau du robinet. Et ils se sont fait attraper, on va dire, parce que... Bon, je ne rentre pas trop dans les détails, mais ils ont eu peur d'une enquête en cours. Ils sont allés dire à l'État, voilà, on utilise des filtres dans nos usines. Et ils ont engagé une espèce de négociation avec l'État. Et l'État leur a dit, eh bien, vous retirez une partie des filtres, mais vous en laissez d'autres. Vous retirez les filtres à charbon et les filtres UV, mais vous gardez la microfiltration, les fameux microfiltres qui filtrent une partie des bactéries, mais pas toutes les bactéries.
Aujourd'hui, Marie Perrier, notamment, attend de retrouver son autorisation, ce qu'on appelle d'exploiter la source comme une eau minérale naturelle. Est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui que cette appellation-là, eau minérale naturelle, est désormais nulle et non avenue?
Totalement, et c'est pas moi qui le dis, c'est le dernier rapport en date, c'est un rapport d'hydrogéologues, donc de scientifiques agréés par le ministère de la Santé, et ces scientifiques ont dit ce n'est plus possible de produire de l'eau minérale naturelle avec les puits qui sont exploités sur le site de Vergès, parce que tous les puits sont contaminés par des bactéries.
J'aimerais me tourner vers vous, Alexis Guilpart, vous pour France Nature Environnement. D'abord, qu'est-ce que ça vous a inspiré, cette histoire de Nestlé Waters, et pas seulement sur le cas particulier de Nestlé Waters, mais simplement le fait que désormais, effectivement, ces endroits-là qui étaient censés ne jamais être sujets à un certain nombre de bactéries le soient devenus.
Alors, c'est déjà un sujet un peu de... Ça a été bien dit par l'auditeur, un sujet de rupture de confiance avec les services de l'État. C'est-à-dire, on a finalement des services de l'État et à un niveau assez haut qui négocient avec une multinationale pour, au nom d'intérêts économiques, pour leur permettre de poursuivre une activité d'exploitation de l'eau. De l'eau qui, rappelons-le, ils vont la vendre 100 à 400 fois plus cher. Donc, il y a vraiment une tromperie du consommateur. Et en même temps aussi une exploitation de la ressource qui n'est plus très légitime, parce que ce qui donne aussi un peu une autorisation particulière à l'industrie de l'eau minérale de venir exploiter cette eau qui, par ailleurs, est un bien commun, c'est le fait de pouvoir la valoriser en tant que telle. Là, finalement, on voit qu'ils sont en train d'essayer de négocier pour vendre très cher une eau qui finalement devrait revenir au service public d'eau potable qui, eux, va pouvoir faire les traitements auxquels ils ont droit et le vendre à un prix tout à fait correct à la population. Donc, il y a vraiment cette tromperie avec la complicité de l'État qui devrait amener vraiment une réflexion en profondeur, parce que le sujet, c'est pas uniquement ces marques-là pour ou contre l'eau minérale, c'est aussi cette eau qu'on consomme vraiment très massivement, c'est 36 millions de bouteilles en plastique à usage unique par jour, sachant que la France s'est fixé un objectif de diviser par deux ce volume de bouteilles en plastique à usage unique d'ici 2030. Donc il y a une ambition qui est assez forte, mais qu'on est vraiment loin de tenir, puisque en 2022, ça avait augmenté de 4% la consommation d'eau en bouteille. Donc il faut vraiment élargir la focale et se dire... justement, on a là une industrie qui est un peu à bout de souffle. De toute façon, ils ne pourront plus produire de l'eau minérale. C'est confirmé par les scientifiques, comme ça a été bien dit. Donc, il faut vraiment plutôt repenser le qu'est-ce qu'on va faire de nos eaux, comment on les traite et à quel prix on la vend. Et donc, plus par ce biais-là.
Et Nicolas Garnier, c'est la vraie question, effectivement, elle est là. Qu'est-ce qu'on va faire de nos eaux? Est-ce que désormais, on se dit qu'à terme, maintenant, à très moyen terme, voire à court terme, il n'y aura plus... On n'aura plus le droit de dire qu'il y a en France de l'eau minérale naturelle. Est-ce que, encore une fois, il y a d'autres eaux, il n'y a pas que Nestlé Waters, mais de fait, est-ce que notre avenir à tous est de dire ça, aujourd'hui, à terme, ça n'existe plus?
sur la question des eaux minérales, je ne suis pas sûr d'être le plus légitime, mais ce qui est intéressant dans cette affaire quand même, c'est que ça nous questionne sur les 15 milliards de bouteilles d'eau dites minérales ou autres que consomment les Français. D'abord parce que, comme ça a été dit, ça produit énormément de déchets plastiques. Ouais. Ensuite, parce que ça économise, en buvant l'eau du robinet, près de 500 euros par habitant. Donc, c'est une énorme économie en termes de pouvoir d'achat. Et puis, on vient de le voir, en termes de protection de la santé, c'est pas du tout une garantie de boire de l'eau bouteille plus importante que l'eau du robinet. Et moi, je voudrais revenir sur la question que vous posiez, sur la question de, j'allais dire, du lobby. Nous, on vit en même temps, et c'est intéressant d'en parler là, un autre lobby. Le lobby qui a été très fort, ça a été de masquer quand même une pratique qui était illégale. Et dans le même temps, ça fait 4 ans qu'on se bat, nous, les collectivités, mais aussi les ONG environnementales, les associations de consommateurs, pour éviter aux Français une supercherie qui est en fait ce qu'on appelle la fausse consigne. C'est que ce même lobby, Nestlé et les autres, essayent de convaincre tout le monde que l'avenir, c'est d'augmenter de 15 centimes ces bouteilles d'eau pour ensuite nous faire faire un geste de tri beaucoup plus compliqué en supermarché plutôt que de le mettre dans le bac jaune. Ça coûtera cher, ça résoudra pas le problème du plastique, voire même ça cautionnera ce modèle de l'eau dans une bouteille plastique qu'il faudrait consommer de manière un plus importante. Donc ça doit vraiment, je trouve que ce qu'on vient de vivre doit nous interroger sur mais pourquoi boit-on autant d'eau dans des bouteilles qui ne garantissent pas grand-chose, qui coûtent cher et dans lequel on cherche à nous encourager. En tout cas, c'est en tant que représentant des collectivités qui proposent de l'eau du robinet beaucoup moins chère et beaucoup plus suivie. Il nous semble que la question se pose, y compris d'un point de vue du pouvoir d'achat.
On va y venir évidemment à l'eau du robinet puis aussi à son suivi. Juste une dernière chose, Marie Dupin, avant de retourner au standard. On a l'impression finalement, quand on vous lit, quand on vous écoute et quand on regarde cette enquête et ce qu'on dit les sénateurs, qu'au fond, on est entré dans un autre monde, en fait. Que le temps, effectivement, de la bouteille plastique et le temps de la bouteille, de l'eau en bouteille, en fait, était quasiment un temps révolu.
Oui, alors, il y a quand même deux choses. Hein. Donc, effectivement, aujourd'hui, il faut quand même le dire, ce ne sont pas quand même toutes les eaux minérales naturelles
30%.
Qui sont concernées.
C'est le chiffre que j'ai, d'ailleurs, voilà.
En tout cas, ce qu'on sait, c'est que le groupe Nestlé Waters, lui, a vraiment un problème de pollution de ses ressources naturelles. C'est le seul industriel pour lequel on a la certitude que les eaux sont polluées. Mais effectivement, cette histoire, elle raconte une autre histoire. Elle raconte l'histoire d'eau qui était censée être pure parce que très profonde et donc très préservée dans des nappes phréatiques qui étaient profondes et qui, effectivement, aujourd'hui sont polluées. Et je trouve que l'aboutissement de tout ça, le symbole de tout ça, c'est quand les bactéries se retrouvent dans les bouteilles et que Perrier se retrouve contraint de détruire des bouteilles. 300 000 bouteilles la semaine dernière, 3 millions de bouteilles il y a un an. Et donc, en fait, on met dans des bouteilles en plastique de l'eau pour ensuite finalement rejeter ces bouteilles dans les nappes phréatiques, rejeter l'eau dans les nappes phréatiques et détruire les bouteilles en plastique. Donc on a produit des bouteilles en plastique pour les détruire. Et donc c'est effectivement très symbolique, effectivement comme vous disiez, de la fin d'un monde en fait, d'une autre époque.
Voici François qui nous attend au standard. Bonsoir François.
Bonsoir.
On vous écoute François.
Votre intervenant parle d'or, juste à l'instant. Le scandale Nestlé, il est avéré. Un industriel vend un produit pour ce qu'il n'est pas. Il y a peut-être un scandale politique qui va éclater, mais il y a une troisième question, c'est ces nappes phréatiques profondes ou à des surfaces à des niveaux intermédiaires ont été polluées par des bactéries d'origine humaine ou d'origine animale. Elles ont été polluées par des produits phytosanitaires. Donc, comment est-il possible d'avoir, je dirais, en conscience, une pollution d'une ressource qui va être après exploitée de manière industrielle? Dans cette affaire, Nestlé est coupable, mais il n'est sans doute pas le seul. Et comment cela a-t-il pu être possible?
Un mot là-dessus, peut-être, Alexis Guilpart, pour répondre à notre auditeur.
Alors, c'est vrai qu'on est tenté de se dire, bon, on se détourne de l'eau en bouteille et c'est tant mieux. Nous, à France Nature Environnement, c'est vraiment ce qu'on prône. Hein. C'est l'eau du robinet, le meilleur aliment.
Théoriquement, le plus contrôlé, on va y venir.
Ouais. Et le plus contrôlé. Mais on a des problèmes de contamination aussi sur notre eau du robinet, qui sont un peu différents et puis qui peuvent être traités différemment. Puisque, effectivement, tout ce qui est bactériologie, du coup, ces traitements, ils sont autorisés. Et d'ailleurs, ils sont pris en compte dans le coût des usines de traitement. Et c'est très suivi. La bactériologie, c'est quand même... quand il y a des contaminations, elles sont assez vite mises en évidence et rapidement traitées. Là où on peut avoir plus de difficultés, c'est sur des molécules soit issues d'un passé ou d'un présent industriel ou de l'activité agricole, hein, donc ça a été nommé les nitrates, les pesticides, qui là atteignent des concentrations qui rendent l'eau soit non conforme, soit non potable. Alors on a des cas précis de territoires, hein, de communes où on ne peut pas consommer l'eau du robinet. Hein. Je vais citer l'exemple, par exemple, de Chemilly-sur-Serein, 136 habitants dans l'Yonne, une petite commune où on ne peut pas boire l'eau du robinet depuis 2003. Parce qu'il y a un pesticide qui est utilisé dans la vigne, hein, on est dans la région du Chablis, qui, même s'il est interdit, il est encore très présent et donc...
Et pas filtrable, voilà, donc c'est ça que ça veut dire.
Et surtout, faute d'usine de traitement, parce qu'on est sur des petites communes rurales qui n'ont pas les moyens de mettre en place ce traitement. Et donc là, il y a une vraie question en fait, je dirais, d'égalité un peu républicaine derrière, entre les territoires et les citoyens. Vraiment, l'objectif qu'il faut se donner à tous et toutes, c'est d'aller vers une eau du robinet de qualité et accessible à chacun, quel que soit, qu'on soit dans une grande métropole ou une petite commune rurale. La question, c'est, on va dire, évidemment, mais comment parce que ces contaminations, elles sont là. Alors, quand elles sont là et que le traitement est compliqué à appliquer faute de coûts, c'est penser à l'avenir aussi, c'est-à-dire aujourd'hui empêcher des nouvelles molécules de rentrer dans ces...
J'allais dire, en fait, essayer à la source, sans mauvais jeu de mots, plutôt que d'essayer de nettoyer derrière, essayer d'empêcher à la source. Moi, je voudrais vous poser une question un peu bête et méchante, Nicolas Garnier. Est-ce que, à la question... est-ce qu'on est absolument sûr que l'eau qui sort de notre robinet, avec tout ce qu'on sait faire, est parfaitement sûre? Est-ce qu'à cette question, on peut répondre oui, l'eau reste la chose qui est l'aliment le plus contrôlé et le plus visité par les experts? Est-ce qu'on peut dire à cette question absolument n'ayez pas peur? Ou est-ce qu'on n'a pas le droit de répondre en positif à cette question? Et j'ai un peu peur de connaître déjà la réponse en écoutant Alexis Guilpart.
En tout cas, je ne peux pas vous dire oui à 100%, parce qu'effectivement, d'abord, il y a l'état des connaissances. Ce qu'on savait sur les métabolites de pesticides il y a 10 ans, est-ce qu'on en sait aujourd'hui? Ce qu'on savait sur les PFAS il y a 5 ans, est-ce qu'on en sait aujourd'hui? Montre que la première chose qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un industriel qui met une nouvelle molécule sur le marché, que ce soit dans un kawé, dans une mousse de pompier ou dans un pesticide, devrait faire l'objet d'une étude d'impact. C'est pas toujours le cas. Et généralement, on découvre 20 ans après qu'on a utilisé pendant des décennies des produits qui polluent et qu'il va falloir traiter. Donc, c'est l'un des gros problèmes. Effectivement, les points de captage, donc la France a 33 000 points de captage d'eau potable. Hein, donc aujourd'hui, qui sont gérés par des collectivités locales, hein, c'est un service public local, l'un des derniers grands services publics. Effectivement, sur ces points de captage, on assure des centaines de milliers d'analyses, principalement d'abord pour effectivement ce qu'on appelle la bactériologie, c'est ce qu'ils ont retrouvé de l'autre côté Escherichia coli principalement. On va regarder aussi bien sûr la question des nitrates, donc qui vient des fertilisants agricoles. On va regarder les métabolites de pesticides, donc là cette fois-ci les pesticides qu'on met dessus. Et puis maintenant, on va regarder les PFAS, les plastiques. On va regarder également les nouvelles pollutions médicamenteuses et cosmétiques. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire de manière un peu claire, c'est qu'il y a 2000 personnes aujourd'hui qui ont fait l'objet d'une restriction, c'est-à-dire qu'on a coupé le captage parce que c'était dangereux pour la santé. Et il faut savoir que dès qu'on dépasse une valeur maximum, on coupe immédiatement. Donc,
c'est la question.
Boire l'eau du robinet, c'est vraiment quelque chose de sûr parce qu'il y a tout un protocole qui est en place qui permet de dire dès qu'on dépasse une valeur vraiment dangereuse, c'est coupé immédiatement. Et en dessous, par contre, ce qu'on voit de plus en plus, et c'est ça moi mon message principal, c'est quelque part eau en bouteille et eau du robinet, même combat. Comme de toute façon au-dessus, il y a les mêmes agriculteurs, les mêmes industriels, qu'on a consommé les mêmes vêtements en plastique de chez Temu et Shine, bourrés de matières chimiques, etc. On commence à voir dans notre source en eau à l'échelle nationale, que ce soit de l'eau pour le robinet ou de l'eau en bouteille, toutes ces pollutions qui arrivent. Et donc on a deux choix. Soit on ferme les yeux, soit on se met à attaquer le sujet, et il y a trois idées. Un, étude d'impact. Deux, interdiction, je le dis, interdiction de certaines molécules. Se dire qu'aujourd'hui, il y a des PFAS qui sont encore permis dans des vêtements, alors qu'on sait pertinemment ce qui va se passer derrière, ça pose question. Et trois, financer le traitement. Et ça, c'est nouveau. C'est que vous allez voir, toutes les collectivités sont en train de réfléchir à mettre en place des traitements sur leurs points de captage. Vous avez eu un sujet il y a quelques jours sur France Info et sur France Inter, sur un cas en Alsace, mais vous en avez partout. Aujourd'hui, les élus qui sont en train de se dire, je vais mettre en place, qu'on n'avait pas imaginé, des traitements contre les PFAS, des traitements contre les métabolites de pesticides. Et ça va coûter des milliards.
En
la
Alsace,
question,
pardon,
c'est qui paye.
Pardon de vous interrompre, mais comme vous n'êtes pas là, c'est un peu compliqué de vous interrompre au milieu. Mais il y a quand même une chose, Alexis Guilpart, et j'entends ce que dit Nicolas Garnier, non seulement sur ce qu'on découvre aujourd'hui, et que donc on découvre potentiellement dans l'eau, sur ce qu'on ne teste pas encore, il a parlé des médicaments notamment, et qu'on risque de découvrir dans l'eau. Après, il y a une différence entre ce que l'on trouve et le seuil de ce que l'on trouve. Mais comment ça se fixe, en fait, au fond, ce seuil-là? Comment on est capable de... En fait, j'ai deux questions dans une. Comment on est capable de fixer ce seuil-là? Et surtout, est-ce qu'il est aussi dangereux d'avoir un seuil qui est trop haut pour l'un de ces produits-là? Ou est-ce que tous ces produits-là, mais à tout petit seuil, donc pas dangereux, multipliés, risque d'être aussi dangereux que si l'un d'eux était extrêmement élevé?
Oui, question très complexe, hein, parce que en plus tous ces seuils, ils ont des valeurs. Enfin voilà, il y a la valeur de conformité, la valeur de potabilité, souvent.
Bon, qui n'est pas la même.
Voilà, mais on est parce que et c'est fixé. Je vais pas dire de manière arbitraire, mais avec quand même une inconnue, une incertitude. D'abord parce que on maîtrise pas encore, on n'a pas la connaissance fine des effets écotoxicologiques de chaque molécules et de chaque produit de dégradation. C'est-à-dire des molécules, elles sont testées en tant que pesticides, mais en fait, leur produit de dégradation va potentiellement, lui, être plus dangereux sur la santé humaine pour toute une batterie de raisons. Et vous l'avez mentionné, cet effet cocktail, où finalement un mélange de plein de molécules...
Toute petite quantité à chaque fois, donc pas dangereuse, mais multipliée par 10,
voilà,
ça veut dire
et qui se combinent entre elles, et qui se combinent entre molécules issues de l'agriculture et molécules issues de l'industrie, qui vont... Enfin voilà, donc ces effets cocktails, c'est aujourd'hui vraiment du champ de la recherche, mais donc qui génèrent pas mal d'inquiétudes, avec quand même une certitude, c'est qu'aujourd'hui, on sait que les pesticides, ils sont faits pour tuer la vie, hein. C'est fait pour tuer des champignons, des bactéries, des insectes, c'est fait pour tuer des végétaux dans le cadre des herbicides. Ça a un effet aussi sur notre physiologie. Et on sait que c'est pas uniquement une histoire de concentration, mais aussi une histoire de fréquence d'exposition. À quel moment de la vie on y est exposé? Est-ce qu'on y est exposé tous les jours ou de temps en temps? Si on passe longtemps des étés chez les grands-parents à la campagne dans une zone où il y a une activité agricole forte et qu'on y va tous les étés, c'est pas la même chose que si on y va que... un week-end de temps en temps. Donc l'épidémiologie en fait, qui a à faire derrière le suivi des effets des micropolluants dans l'eau, que ce soit des pesticides ou des micropolluants industriels.
Je vois bien ce que vous dites, alors vous n'êtes pas en train de nous foutre la trouille, mais enfin un peu quand même, parce que ce qu'on comprend surtout, c'est le nombre de choses qu'on ignore en fait aujourd'hui, qu'on découvrira peut-être demain, après-demain, comment on fait pour le filtrer, combien ça va coûter en plus pour le filtrer, pour les collectivités, etc. Avant qu'on y revienne, comme il y a une série de questions qui sont tombées, qui sont plutôt pour vous, Marie Dupin, on a Jean-Christophe, tiens, écoutez ce que dit Jean-Christophe. Je ne trouve pas cela choquant. Le scandale est plutôt dû au fait que les eaux sont désormais polluées. Un autre scandale aurait été que les vendeurs mettent sur le marché des eaux impropres à la consommation. Et donc, il n'y a pas de quoi en faire toute une histoire, nous dit Jean-Christophe. Ce que je trouve intéressant dans ce que dit Jean-Christophe, c'est le fait qu'on a aussi intégré ça, en fait. Intégré le fait que désormais nos eaux étaient polluées. Intégré le fait que faire sans, désormais, y compris une eau minérale naturelle qu'on pensait effectivement pouvoir boire à même la rivière, aujourd'hui, ce n'est plus le cas.
Oui, alors, je suis désolée pour notre auditeur, mais je ne suis pas tout à fait, je ne partage pas tout à fait son point de vue pour avoir beaucoup, beaucoup travaillé sur cette affaire. Et c'est là où cette affaire est la plus problématique. C'est qu'en fait, les eaux du groupe Nestlé qui sont polluées, en fait, ne sont pas traitées correctement. Elles ne sont pas traitées comme l'eau du robinet, comme je le disais au départ, avec des filtres UV, des filtres à charbon et de la microfiltration. Elles sont traitées uniquement avec de la microfiltration. Et il y a beaucoup de fonctionnaires et beaucoup d'agences de santé qui ont dit que ce n'était pas suffisant pour traiter correctement l'eau. Le directeur général de la santé a dit début 2023 au gouvernement ne laissez pas Nestlé utiliser ces filtres-là, c'est inacceptable car ils ne sont pas suffisants pour garantir la sécurité sanitaire de l'eau. L'Agence nationale de sécurité sanitaire a dit la même chose. Le rapport sénatorial qui est publié aujourd'hui dit la même chose. Des scientifiques agréés par le ministère de la Santé, je le disais, disent la même chose. Donc en fait, oui, et c'est là qu'est le scandale en fait, c'est que l'État a laissé Nestlé commercialiser des eaux polluées et insuffisamment traitées.
Avant de retourner au standard, juste une question, je ne sais pas pour qui aller parce que je ne sais pas qui peut avoir la réponse. C'est Olivier qui dit « La France est dingue de ses eaux en bouteille, aucun autre pays au monde, sauf ceux qui ont l'eau courante, et donc une eau courante impropre évidemment, ne présente de tels murs d'eau dans les supermarchés français. » C'est vraiment une histoire française, les bouteilles d'eau ou pas? Honnêtement, pardon de vous piéger, c'est une histoire française, Marie, vous savez ça ou pas?
Je crois qu'effectivement, en tout cas, c'est l'eau minérale. Les Français sont de très 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 grands consommateurs.
C'est parce qu'on en avait beaucoup.
D'eau minérale, oui, et effectivement, on a des sources assez connues. Il y a Evian, Danone, etc. Donc oui, on est des gros consommateurs, des gros exportateurs aussi. Hein. Par exemple, dans le cas du groupe Nestlé, Nestlé exporte énormément la marque Perrier, notamment vers les États-Unis.
Vous avez la réponse, vous, Nicolas Garnier. Est-ce que c'est une fixette française, les bouteilles, l'eau en bouteille ou pas?
En tout cas, la tendance actuelle, oui. C'est-à-dire qu'on est l'un des rares pays où la quantité de bouteilles augmente. Parce que tout le monde dit qu'il faut en consommer moins, mais la réalité de ce qui est en train de se passer, c'est que la quantité de bouteilles mises sur le marché continue d'augmenter en France, a augmenté de près de 15%, je crois, sur les dernières années. Donc, il y a bien une question de fond, c'est pourquoi est-ce que les Français consomment autant d'eau du robinet, d'eau en bouteille, par contre, alors qu'ils pourraient consommer l'eau du robinet? C'est bon pour le porte-monnaie, c'est bon pour la santé, c'est bon pour l'environnement. Donc, on appelle à, effectivement, cette prise de conscience.
Allez, on est en train de parler de l'eau que nous buvons. Au téléphone sonne ce soir avec Marie Dupin, qui est journaliste à France Info et qui avait réalisé une très grosse enquête sur Nestlé Water et l'eau que nous buvons. Il y a Nicolas Garnier, qui est directeur général de l'association Amorce, et il y a Alexis Guilpart, qui est en charge des questions d'eau à France Nature Environnement. Et il y a Marc, qui nous appelle des Cévennes. Bonsoir Marc.
Oui, bonjour. Je suis, moi, dans un château d'eau. Cévennes, c'est un château d'eau. J'ai été adjoint au maire d'une grande ville pendant 15 ans et j'étais chargé justement de tout ce qui était eau et assainissement dans cette grande ville. Et nous avions un concessionnaire d'eau qui n'était pas, parce que contrairement à ce que j'ai entendu récemment sur votre antenne, il y a la moitié des villes qui font appel à des opérateurs privés pour leur eau potable. C'est pas les collectivités locales qui les gèrent. Mmh. Et je peux vous dire que l'opacité des opérateurs privés sur l'eau potable est tout à fait énorme. Voilà. Mmh. C'était des contrôles très limités, c'était des contrôles qui avaient lieu toutes les semaines, un contrôle par semaine sur l'eau potable, ce qui n'était pas beaucoup, et les usines étaient vétustes et mal entretenues. Donc quand vous avez des épidémies de gastro-entérite dans les villes, vous savez, ça arrive assez régulièrement, il ne faut pas chercher les causes ailleurs que là. Et quand vous habitez, par exemple, dans un bassin comme le bassin de Sète, bassin de Thau, etc., là, c'est assez régulier que les gens soient malades à cause de l'eau potable du robinet.
Merci beaucoup pour votre coup de fil et votre remarque. Marc, vous avez mis un peu en colère notre ami Nicolas Garnier. On vous écoute, monsieur Garnier.
Non, en colère, c'est pas le cas, parce qu'en plus, les élus ont dans l'ensemble quand même une expérience très importante et il faut les écouter. Mais c'est vrai que c'était probablement le cas il y a une quinzaine, vingtaine d'années. Le monde de l'eau a complètement changé. Il y a eu une réappropriation par les collectivités locales, la création de régies, des nouveaux contrats qui ont vraiment mis en place des systèmes de performance et de contrôle. Donc je crois que ce que disait l'auditeur était probablement vrai dans un passé assez ancien. Aujourd'hui, il y a vraiment un pilotage extrêmement précis. Je peux vous amener à l'antenne un nombre d'élus qui suit de très 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 près la question des pollutions. Et aujourd'hui, il faut quand même dire qu'à 99,5%, nos eaux sont de bonne qualité, avec quand même un vrai, enfin j'insiste là-dessus, une menace sur les 5-10 prochaines années si on fait rien. Là, par contre, je pourrais pas en dire autant si on ne bouge pas dans les 10 prochaines années, parce qu'on voit des valeurs limites augmenter. Et donc, on est dans des seuils d'alerte. C'est ce qu'on appelle une eau non conforme. Elle est non conforme, mais elle est potable. Ça veut dire, attention, là, on dépasse des valeurs qui sont préoccupantes. Et c'est là que doivent se déclencher des interdictions à l'échelle de ce qu'on appelle l'aire de captage. C'est-à-dire, vous voyez, autour de votre point de captage, vous avez un endroit qui est protégé, puis une aire beaucoup plus large, une aire d'alimentation. Et là, il faut apprendre à accompagner le monde agricole, à accompagner le monde industriel, à faire un certain nombre de mesures pour éviter ces pollutions. Mais en même temps, tout à l'heure, votre collègue journaliste Marie Dupin parlait d'un scandale. Moi, je pense qu'il y a un double scandale. Le premier scandale, c'est ce qu'on dit sur les eaux en bouteille. Le deuxième, c'est le fait de laisser utiliser des molécules dont on sait pertinemment qu'un jour, elles poseront un problème sur nos points de captage. Il y a une sorte de schizophrénie, je dis de l'État, mais c'est pas gouvernemental, c'est des États les uns après les autres, à dire mais pourquoi on ne légifère pas plus sur un certain nombre de molécules dont on sait qu'elles vont poser problème. Et après, on dit aux élus locaux, débrouillez-vous, essayez de trouver des solutions pour protéger le captage d'eau potable, désolé, mais quand il y a du nitrate, des métabolites de pesticides, c'est pas l'élu local qui est en capacité, j'allais dire, d'interdire ces pesticides aujourd'hui.
Est-ce que justement, vous l'avez un peu évoqué, Alexis Guilpert, je voudrais qu'on revienne là-dessus. Est-ce qu'on peut réellement éviter la contamination en allant chercher beaucoup plus haut, c'est-à-dire effectivement dans les protections de captage, dans les aires d'alimentation, pour éviter d'avoir à travailler sur une eau déjà contenue? Est-ce que c'est vraiment du domaine du possible, ou est-ce que ça rend les choses beaucoup plus compliquées?
C'est du domaine du possible, et c'est ce que recommandent les propres services des ministères de la Santé, de l'Agriculture et de l'Écologie. Il y a eu un rapport des trois inspections IGAS, IGEDD et CGAER, donc ces trois inspections de ces trois ministères, ont fait un gros rapport qui a mis un peu de temps à sortir et qui a un peu fuité dans la presse, donc ils ont fini par le publier en novembre dernier, qui pointe un peu l'échec justement de cette politique préventive et de traitement de la question des métabolites de pesticides dans l'eau potable. Eux, c'est clairement leur recommandation, c'est il faut traiter le problème à la source, le préventif sera toujours moins coûteux que le curatif, est sûrement plus facile à mettre en place, parce qu'effectivement, on peut légiférer molécule par molécule. Ah, là, on a une alerte, là, on a une alerte sur ce produit de dégradation. Là, on... Mais en fait, est-ce qu'on ne peut pas se dire aussi, ces aires d'alimentation de captage, c'est des zones où on en fait un peu un sanctuaire en matière de pratiques agricoles. On ne fait plus rentrer de pesticides de synthèse dessus. On se donne un plan, voilà, une feuille de route sur 10 ans pour se dire... parce qu'on sait qu'on risque d'atteindre des nouveaux problèmes de conformité, de potabilité, on sanctuarise ces aires-là, et ça tombe bien parce qu'on a aussi des objectifs en matière de surface en bio qui sont difficiles à atteindre, donc finalement si on se fixe une feuille de route là-dessus, on joue en même temps sur ce tableau-là de développer l'agriculture biologique.
Marie Dupin, on a Jean sur WhatsApp qui nous dit ceci. Pourrions-nous continuer à boire de l'eau de Perrier même si elle n'a plus l'appellation eau minérale naturelle? Si les filtres permettent de la consommer, moi je continuerai à le faire parce qu'avec un peu de chance, elle risque d'être un peu moins chère que maintenant.
Alors oui, mais ça pour le coup, ce serait possible. C'est-à-dire que Perrier pourrait continuer à produire une eau, alors ça ne s'appellerait plus Perrier, aurait forcément une autre appellation. Bah oui, parce que sinon ça pourrait être considéré comme une tromperie vis-à-vis des consommateurs qui, pendant des années, ont acheté une eau minérale naturelle Perrier. Donc, il faudrait une autre marque. D'ailleurs, Nestlé a prévu le coup, puisqu'ils ont créé une marque qui s'appelle Maison Perrier. Donc, ça pourrait s'appeler Maison Perrier. Mais il n'y aurait plus marqué eau minérale naturelle. Il y aurait marqué sur la bouteille eau rendue potable par traitement. Et on peut s'attendre à ce qu'un certain nombre de consommateurs, se détournent de la marque Perrier, puisque c'est quand même moins attractif eau rendue potable par traitement que eau minérale naturelle.
Une autre question pour vous, c'est celle de Jacques qui dit qu'est-ce qu'on peut dire des microplastiques dans l'eau en bouteille ?
Qu'est-ce qu'on peut dire des microplastiques dans l'eau en bouteille ?
Alors, il y a Alexis Guilpard qui a levé le doigt.
Oui, je pense qu'Alexis Guilpard.
Allez-y, monsieur Guilpard. Sauvez Marie.
Sauvez-moi.
Il y a une étude qui est parue l'année dernière, en 2024. Où en fait, dans la revue PNAS, une revue américaine, ils avaient testé l'eau de bouteilles en plastique de plusieurs marques. Alors, ils ne les avaient pas citées parce qu'en fait, ils partaient du principe que les bouteilles, vu que ça venait de la bouteille en plastique elle-même...
Alors, vous demander si le microplastique vient du plastique de la bouteille.
Alors, il viendrait à la fois du dispositif de traitement et d'embouteillage, mais principalement de la bouteille de plastique elle-même. Et donc, ils ont caractérisé en moyenne 240 000...
C'est vraiment un comble quand on y songe.
Ouais, 240 000 fragments de nanoplastique. Donc là, on est en dessous du microplastique. Par litre d'eau. Donc c'est énorme. Ces nanoplastiques, c'est pareil, on a encore une grosse incertitude. On sait que ça peut vraiment voyager dans les vaisseaux sanguins, au plus profond de notre organisme. Donc l'eau en bouteille n'est pas une solution. Et ça a été aussi testé, parce qu'on parle des PFAS, notamment des PFAS dans l'eau, mais il y a des PFAS aussi dans l'eau en bouteille. Et donc ça, c'est une étude de Pan-Europe, Pesticide Action Network, qui en décembre 2024 avait révélé que sur 19 échantillons d'eau minérale testés dans 7 pays, il y en avait 10 qui contenaient des traces de TFA, l'acide trifluoroacétique, donc un des PFAS les plus connus, et dans certains cas jusqu'à 32 fois supérieur à la limite réglementaire de l'eau potable. Donc en fait, l'eau en bouteille, il ne faut pas se dire...
Il ne faut pas y aller en fermant les yeux, pas tout à fait.
Et je veux dire, si monsieur il a envie de continuer à consommer de l'eau pétillante, et de l'eau pétillante qui sera traitée comme de l'eau potable finalement, mais plutôt qu'il s'achète un dispositif qui produira moins de déchets, ça lui reviendra vraiment moins cher à terme. Donc,
voici Jean-François qui nous attend. Bonsoir Jean-François.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Bah, écoutez, j'ai écouté l'émission. Bon, il y a un petit moment où je suis parti, mais c'est super intéressant et ça rentre en définitive dans tout le travail qui a été fait sur les eaux, qui rentrent, tous les entrants qui rentrent en station d'épuration, aussi bien chimiques, domestiques ou hospitaliers et autres, qui sont traités dans les stations d'épuration, mais malheureusement qui ne sont pas aux normes et qui ne peuvent pas traiter tous les entrants moléculaires et chimiques, et qui de nature retournent à la rivière ou retournent dans les les nappes phréatiques, mmh. et puis à partir de là, on vient repomper cette eau, normalement elle est traitée, mais elle est traitée d'une certaine façon où on ne pourra jamais tout enlever, mmh. les entrants dans l'eau. Donc au robinet, on retrouve des molécules que l'on a laissées partir à travers les champs, à travers les produits domestiques, à travers les pelouses, etc. Et ça, on ne peut pas le faire actuellement parce que c'est pas aux normes.
Jean-François, merci beaucoup. Nicolas Garnier, et c'est vrai que on a l'impression que c'est le diable qui se mord la queue, en fait, et on n'en trouve pas le bout, en fait.
Bah, en fait, il y a quand même. On a parlé tout le début de l'émission des points de captage, c'est-à-dire le fait de capter de l'eau pour en faire de l'eau potable. Mais il y a le bout de la chaîne. C'est une fois que vous avez tiré la chasse d'eau, il y a une eau qui effectivement a un certain nombre de charges. En particulier, je le dis, le fait que 80% de nos vêtements sont en plastique fait que ce qu'on déverse dans les eaux usées après une machine à laver, c'est beaucoup de microplastiques. La bonne nouvelle, si je peux me permettre, c'est qu'en fait, on a trois technologies qui sont en train de se mettre en œuvre dans les stations d'épuration, ce qu'on appelle le membranaire, l'osmose inverse et la filtration, qui arrivent à capter une très grande partie, pas tout, mais une très grande partie de toutes les pollutions dont on a parlé depuis le début de l'émission. Mmh. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est que ça coûte cher. Ça coûte probablement des milliards. Et la question, c'est qui va payer ? Soit c'est vous et moi, monsieur et madame Michu, dans leur facture d'eau, parce que globalement, soit on fait payer le pollueur. Et nous, ce qu'on dit, c'est appliquons pollueur-payeur. Mmh. Faisons payer Shine et Temu sur ses vêtements plastiques, faisons payer les pesticides, faisons payer Kawe sur les PFAS, etc. C'est des gens qui aujourd'hui mettent sur le marché des produits polluants, c'est pas aux consommateurs d'eau de payer ça, et c'est la grande débat. Et de manière générale, c'est peut-être ma dernière intervention, toute la discussion montre qu'on ne met pas la valeur de l'eau à son juste prix. Alors, l'eau aujourd'hui, ça coûte 4 euros le mètre cube.
C'était le sens de ma question suivante. Ah bah, effectivement, écoutez, on ne connaît pas le prix de l'eau. En fait, personne ne connaît le vrai prix de l'eau.
Voilà, ou plutôt la valeur de l'eau. Le prix, ça coûte à peu près 4 euros le mètre cube au robinet. C'est pas très cher, c'est beaucoup moins cher, on l'a dit, que la bouteille, donc c'est pour ça qu'il faut la boire. Mais 4 euros le mètre cube, c'est pas beaucoup, hein. C'est de pain au chocolat et demi pour un mètre cube. Un mètre cube, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. Hein. Il faut savoir qu'un Français consomme 150 litres à peu près par jour. Ouais. Et probablement qu'il faut accepter l'idée qu'un certain nombre de produits qui polluent aujourd'hui vont coûter plus cher parce qu'il faut qu'ils financent le traitement. Des produits vont coûter plus cher parce qu'il faut changer de molécule. Mais il faut aussi se dire que le prix de l'eau va évoluer. Et moi, je préfère avoir une eau qui augmente de 20%, mais qu'on en ait toujours autant, parce que ce dont on n'a pas parlé, qui sera peut-être l'objet d'un nouveau téléphone sonne, c'est le fait qu'on a de moins en moins d'eau et qu'aujourd'hui, on a une réfaction des ressources en eau.
Effectivement,
il va y avoir des conflits d'usage, et donc protégeons notre eau quantitativement et qualitativement.
Ce sera un autre sujet, vous avez raison. Très rapidement, vous buvez de l'eau comment, vous, Alexis Guilpard? On a Serge qui nous dit, bon, finalement, vous, les intervenants, vous buvez quelle eau? Moi, je bois l'eau du robinet chez moi, personnellement.
L'eau du robinet,
j'habite
pareil.
À Paris.
Alors moi, j'habite du côté du Grand Orly Seine-Bièvre, qui lui aussi, comme Haute-Paris, est en régie publique, et tout comme Haute-Paris, a des dispositifs intéressants qui se mettent en place pour, et je vais rapidement là-dessus.
Très très vite.
Préserver nos aires de captage, c'est pas faire payer les agriculteurs comme si c'était eux les pollueurs. En fait, c'est le modèle agricole qui les pousse à utiliser des pesticides. Donc c'est aider, accompagner localement les agriculteurs.
On y est vraiment. Merci beaucoup. Marie, vous buvez en
De l'eau du robinet, je vais faire plus court.